Dans ma vie, sois toujours le roi. Et j'espère que c'est votre prière chaque jour, que le Seigneur soit toujours notre roi. Et ça a des conséquences, vous savez, que le Seigneur soit notre roi. Ça a des conséquences, ça veut dire que nous sommes ses serviteurs. Ça veut dire que, comme disait Paul, nous sommes à sa solde. Paul disait qu'il était l'esclave du Christ. L'esclave. Faire ce que Christ lui demande. Je vous propose une lecture dans Matthieu chapitre 22 et nous continuons avec les paraboles. Matthieu 22, versets 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14. Êtes-vous là? Je lis. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi, lui, fut irrité. Il envoya ses troupes et il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, il apparut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les mains, les pieds, ou les pieds et les mains, pardon, et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est par ces mots que Jésus conclut sa parabole. Une parabole qu'on a appelée la parabole des invités. Et ces mots à eux seuls résument un petit peu tout ce que Jésus a dit en amont. Et la première partie, je ne sais pas si dans la lecture vous avez pu voir, il y a un petit peu deux parties. À eux seuls, ils résument ce que Jésus a dit dans toute la parabole. Parce qu'ils mettent en évidence deux mots qui interpellent les baptistes que nous sommes, que je suis, mais pas que. Tous ceux et celles qui se posent des questions à savoir, qu'est-ce que Jésus appelle un appelé ? Que veut-il dire par le mot « appelé » ? Que veut-il dire par le mot « élu » ? Qu'est-ce que ça veut dire dans sa bouche ? Et arrivé à ce stade de la parabole, on s'interroge déjà. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Et notez bien que je précise que nous posons la question dans le cadre de cette parabole. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit en prédication, mais peut-être en étude biblique, un mot n'a de sens que dans son contexte. Si vous feuilletez un dictionnaire, vous trouvez plusieurs définitions pour le même mot et suivant le contexte dans lequel il est utilisé, eh bien, il a un sens différent. Et c'est le cas ici, notamment pour le mot « appel ». C'est bon ? Notamment pour le mot « appeler ». C'est un mot qui a été utilisé par Paul, plusieurs reprises et qui n'a pas le même sens. Pour Paul, le mot « appelé » veut dire « fils de Dieu », « enfant de Dieu ». Alors que pour Jésus, là, ici, ça n'a pas le même sens, dans ce contexte en tout cas. Alors que veut dire Jésus lorsqu'il dit que beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus? Et ce que je nous propose ce matin, c'est de cheminer à travers cette parabole pour découvrir qui sont ceux que Jésus appelle les appelés, qui sont ceux qu'il appelle les élus. Autrement dit, qu'est-ce qu'un appelé? Qu'est-ce qu'un élu? Et en quoi ça nous regarde ce matin? Donc, depuis le début du mois de juin, on parcourt des paraboles de Jésus et nous avons vu que sa venue a suscité diverses réactions, diverses réceptions. Et cette parabole que nous voyons ce matin est la troisième d'une série dans laquelle Jésus s'interroge, s'adresse ou invective les responsables juifs parce que eux se sont mis à contester l'autorité qu'il s'est octroyée. Et donc, ils viennent avec lui, vers lui avec des stratagèmes pour lui tendre un piège. Et on a vu la semaine dernière que Jésus retourne leur piège contre eux. Du coup, qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire dans cette parabole? Alors, je vous propose déjà, dans un premier temps, de voir deux appels lancés par Jésus. Et le premier appel qu'il lance, c'est envers le peuple juif. Dans notre parabole, Jésus fait savoir aux Juifs qu'ils ont été les premiers à être appelés. Mais leur réponse a été déplorable. Des réponses pas à la hauteur de l'appel qu'il leur a été adressé. Le décor ici prend l'apparence d'une préparation, d'un grand banquet donné par un roi à l'occasion des noces de son fils. Les invitations ont été lancées depuis un moment déjà. Et là, c'est le moment de la noce, de la fête. Vous savez, c'était la coutume, quand on préparait une fête, on lançait les invitations sans donner de date. Et c'est le moment, le jour où la fête est prête, les choses sont préparées, on demande aux serviteurs d'aller appeler les invités. Et c'était comme ça pour Jésus. Et on s'étonne, en tout cas moi, je m'étonne, quand je lis ce texte, de voir que les serviteurs vont appeler les invités et les invités refusent de venir. Alors qu'a priori, ils avaient accepté l'invitation du roi. Ils lui avaient accordé un oui, une affirmation. Et là, ils refusent de venir. Je peux vous dire que c'est un bel affront pour le roi. Et en tant que roi, on ne le prend pas. On n'a pas idée de dire non au roi. C'est quand même le roi qui invite. Et c'est une invitation royale. Pourtant, les invités refusent de venir. Alors, le roi va insister. Il va encore envoyer ses serviteurs. Et il va faire savoir aux gens que le banquet est prêt. Il n'y a pas de frigo à ce temps-là. Mon gigot, il va pourrir. Venez à ma fête, les bêtes sont préparées, j'ai tué mes bœufs, j'ai tué mes bêtes grasses. Il n'y a qu'à mettre les pieds sous la table. Tout est prêt, venez. Mais les invités font la sourde oreille. Pire encore, en guise de réponse, ils ont manifesté du mépris pour l'invitation du roi. Certains ont continué leurs petites affaires, d'autres ont été jusqu'à tuer les messagers du roi. Imaginez un instant que vous ayez une invitation pour dîner au palais de l'Élysée, en compagnie du président de la République. Diriez-vous non à Monsieur Macron, même si vous n'êtes pas du même bord politique que lui, même si vous n'êtes pas d'accord avec toutes les idées qu'il propose, diriez-vous non au président de la République à son invitation? Pas moi. Ne serait-ce que pour être dans l'Élysée, j'y vais. Du temps de Jésus, ça ne se faisait pas de décliner l'invitation du roi. Encore moins de tuer ses messagers. C'était clairement une déclaration d'hostilité et de guerre. Pourtant, avec la parabole, Jésus dit aux chefs religieux et aux responsables politiques, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'avez pas écouté mes prophètes dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas écouté mon serviteur Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin du Messie. On le voit en Marc chapitre 1, verset 3. On dit de lui qu'il est cette voix dans le désert qui annonce la venue du Messie. Aplanissez ces sentiers, disait-il, prêchant le baptême de repentance, pardon de péché, et vous ne l'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté attention à lui. Pire encore, vous lui avez même coupé la tête. Vous vous rappelez qu'on lui a coupé la tête à Jean-Baptiste? Les Juifs étaient les premiers à recevoir l'appel du Seigneur. Les premiers à recevoir cette invitation au banquet qui représente le salut que Dieu offre à son peuple. Et bien qu'il s'y était engagé par l'alliance contractée avec Abraham, avec Moïse et tous les autres, ils ont rejeté lorsqu'il était venu. Ils ont refusé son autorité, ils ont refusé sa royauté malgré ses nombreuses invitations. Du coup, en réaction à l'arrogance et au mépris des invités, Jésus, dans la parabole, prononce un jugement sur son peuple. Verset 7, le roi envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Alors, vous pourriez me demander à quoi correspond ce jugement prononcé par Jésus, où les assassins seraient tués, où la ville serait brûlée. Jésus l'avait aussi annoncé en Matthieu chapitre 24, quand il sortant de la ville de Jérusalem, les disciples regardent le temple et ils admirent l'architecture de ce temple-là. Il dit, n'est-ce pas magnifique? Et Jésus qui répond, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple-là. Et les historiens sont d'accord pour dire qu'en l'an 70 de notre ère, Jérusalem a été détruite, la ville a été rasée, le peuple a péri. Jésus avait passé son jugement. Ensuite, au verset 9, on voit que l'invitation s'élargit. À cause du rejet des Juifs, le roi demande à ses serviteurs de parcourir toutes les villes, ou toute la ville plutôt, et de lancer l'invitation à tous ceux qu'ils vont rencontrer. L'invitation est maintenant ouverte à tous. Verset 10, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut remplie des convives. Il se peut qu'en disant cela, Jésus se projette dans le futur de l'Église, hein, lorsque les apôtres ont eu comme mission d'aller partout dans le monde et de rassembler ce grand peuple. Et lorsque Paul aussi arrivant avec son ministère particulier envers les païens, mais que lui aussi aille rassembler ce peuple. Et notez que j'ai dit « bon » et méchants. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le verset 10. Ils ont invité les bons et les méchants. Et à quoi font référence ces deux mots-là? Qui sont ces bons, qui sont ces méchants? Et je crois qu'il faut comprendre l'expression au regard du contexte ou du public vers qui Jésus se tourne, à qui il s'adresse. Et notamment, il s'agit des chefs religieux qui pensent que ce sont eux les bons de l'histoire. Ce sont eux le peuple choisi de Dieu avec qui il a conclu une alliance. De leur point de vue, c'est eux les meilleurs. C'est eux les meilleurs, en tout cas par rapport aux gens de mauvaise vie. De leur point de vue, ils sont meilleurs que les collecteurs d'impôts, ils sont meilleurs que les prostituées. Et si vous vous rappelez de la parole du publicain et du pharisien dans l'évangile selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, il est dit, alors c'est Jésus qui donne encore une parabole, hein, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Quelle prière! Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je suis meilleur que ça. Et la parole de Dieu nous dit que le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux. Mais il frappa sa poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis pécheur. » Alors les méchants, aux yeux des responsables religieux, devaient être les non-juifs, les gens de mauvaise vie, les gens qui ne sont pas comme eux. D'où l'expression de Jésus, les bons et les méchants. Parce que tous sont appelés, tous sont invités aux noces. Et la parole de Dieu nous dit dans cette parabole que plusieurs ont répondu à cette deuxième invitation, si bien que la salle fut remplie. Et effectivement, il y avait des bons, il y avait des méchants, selon la perspective des responsables religieux. Et c'était déjà une grande révolution pour le juif à l'époque, parce que pour lui, c'est le peuple juif, le peuple élu. Le païen n'a que faire du royaume de Dieu. Et là, l'appel est lancé à tous, le bon et le méchant. Mais une chose étrange se produit pendant la fête, au verset 11. Entrant dans la salle de fête, le roi remarque la présence d'un homme. Un homme qui ne portait pas des vêtements de noces, des vêtements adéquats pour un mariage. Et le roi lui dit, « Mon ami, mon ami. » Je ne sais pas si vous avez déjà observé ce mot ou cette expression « mon ami » dans l'évangile de Matthieu. Mais quand il est mentionné, ce n'est pas bon signe. Trois fois il est mentionné. Celui de notre texte, une fois dans le chapitre 20, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la parabole du vigneron et de ses ouvriers, lorsque celui qui a commencé à rouspéter parce qu'il a eu un denier comme les petits copains, il a trouvé que, ben non, moi j'ai travaillé 12 heures, donc je devrais avoir 12 deniers. Et le chef, le vigneron qui lui dit, mon ami. Et quand Judas venait vers Jésus, sur le point de le trahir, Jésus qui lui disait, fais ce que tu as à faire, il lui dit, mon ami. Dire mon ami à cet homme n'est pas bon signe pour lui. Parce que les gens à qui Jésus dit mon ami dans l'évangile de Matthieu, c'est qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que lui. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces? Et l'homme ne sut pas répondre, nous dit le verset 12. Alors, quel est le sens de cette remarque du roi? Qu'est-ce que cela veut dire que l'homme n'avait pas de vêtements de noces? Voici le roi qui rentre, il observe sa salle, il observe les convives et remarque que l'homme ne porte pas d'habit de mariage. Comment est-ce que ça a pu arriver? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, selon certains biblistes, hein, avec qui je tombe d'accord, bien sûr, il faut peut-être lire entre les lignes pour voir que dans cette parabole, si tous les invités viennent des quatre coins des carrefours pour participer aux noces, c'est donc que le roi leur fournit les habits de noces. C'est le roi qui donne les vêtements adéquats pour ces personnes. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas des vêtements de noces sous la main. Mais apparemment, il était de coutume à cette époque que le roi habille ses convives. Donc le roi demande à tous de venir aux noces, mais c'est lui qui habille. C'est lui qui donne les vêtements adéquats. Et cet homme, qui a été interpellé par le roi, refuse ostensiblement de porter les habits que le roi lui propose. Sans doute qu'il estime que les vêtements que j'ai sont bien. Être vêtu des habits que le roi proposait était considéré comme un honneur. C'était une façon de montrer sa soumission envers le roi. Et refuser de les porter était une marque de mépris envers lui. C'est une marque de défiance envers son autorité. Et cet homme pensait pouvoir venir à la fête tranquille, habillé comme il lui plaisait, comme s'il était le roi. Le roi réagit sévèrement face à l'attitude de cet homme. Idiot serviteur, verset 13, liez-lui les pieds et les mains. Jetez-les dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dur. Cet homme qui défie l'autorité du roi est jeté hors de la fête. Son autorité a participé, ou sont autorisés à participer à la fête, que ceux qui portent les bons habits. Merci. Que ceux qui sont bien vêtus. Alors, que représentent donc les habits de noces, nous demandions-nous? Ils représentent la réponse adéquate à l'invitation du roi. Ils représentent la soumission à ce roi et à ses exigences. Il ne suffit pas juste de participer aux noces. Encore faut-il porter les habits que le roi propose. Encore faut-il y participer selon les exigences de ce roi. Agir autrement, c'est s'exposer aux sanctions les plus sévères. La conclusion de cette parabole est d'autant plus surprenante. Comme j'ai dit au début, Jésus conclut avec un beau résumé cette parabole. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Il ne dit pas qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu répondent positivement. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit bien qu'il y a peu d'élus. Comme si en arrière-plan de ce qui se passe, il y avait une réalisation au niveau de Dieu lui-même. Ok, oui, on a la possibilité de répondre positivement à la fête, à l'invitation plutôt. Mais en arrière-plan, du point de vue de Dieu, il y a une sélection qui se fait, un choix qui se fait. L'idée même du vêtement de noces est certainement un emprunt de Jésus fait au prophète Ésaïe. Et si vous regardez au chapitre 61 de ce livre-là, Ésaïe, qui est un chapitre présente le salut, carrément. Et c'est pour ça qu'on appelle Ésaïe le cinquième évangile. Parce qu'on y présente le salut. Et au verset 10, il est dit, « Je serai plein de joie. L'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé de manteaux de justice. » Une image du du vêtement de notre parabole. Et c'est ça que représente ce vêtement. Ce vêtement représente la justice de Dieu, la justice qu'il nous donne, pas notre justice à nous. Parce que rappelez-vous, le bonhomme a été renvoyé de la fête parce qu'il portait ses propres vêtements. Et Jésus dit non, ta justice à toi n'est pas suffisante. Tout ce que tu pourras faire pour vouloir participer à ma fête est vaine, inutile, n'est pas à la hauteur. C'est ma justice que je te donne. Une justice qui a coûté cher parce qu'elle a voulu, elle a valu plutôt la mort de ce fils du roi. Et vous savez, là, cette justice, elle ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, elle est de très longue date. La Bible nous dit en Genèse chapitre 15, au verset 6, en parlant d'Abraham, il est dit qu'Abraham, à l'époque il s'appelait Abraham, Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. La version Semeur le rend ainsi. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Abraham n'a rien fait de bon ou que sais-je encore. Il a juste fait confiance à Dieu et Dieu le déclare juste. Ce vêtement qui est mis sur nous par Dieu lui-même, c'est une déclaration de la justice de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Nous le recevons par la foi en Jésus-Christ, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, de façon à ce que personne ne puisse s'enorgueillir. L'apôtre Paul utilise le même langage dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 27, lorsqu'il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Comme pour dire que c'est Christ, notre justice. C'est sa justice que nous revêtons lorsque nous disons oui à Dieu. Lorsque nous répondons positivement à l'appel pour participer à cette fête. Et là, on le voit, c'est tout le contraire de l'attitude des chefs religieux, des responsables juifs qui pensaient se justifier par leurs propres moyens. Comme disait le pharisien, je ne fais pas comme lui, je ne suis pas adultère, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas, je suis bien. Et donc, je mérite de participer à la fête. Jésus qui dit non, les choses ne se font pas comme ça. C'est ma justice que tu dois afficher. C'est moi qui donne le vêtement, pas toi. Pourtant, ils étaient les premiers invités. Et ils ont refusé. Une question nous est adressée aujourd'hui, à nous. Gens du 21e siècle, au travers de cette parabole. Comment répondons-nous à l'invitation du roi? Et nous pouvons imaginer toutes sortes de situations pour lesquelles le roi nous lance une invitation. Pour chacune d'elles, il nous faut nous poser la question: comment je reçois l'invitation qui m'est faite? Et moi, je vois deux champs d'application à ce que nous venons de dire dans cette parabole. Le premier à destination des non-croyants, disons-le, à qui Dieu lance cet appel de se tourner vers lui. Donc, s'il y en a parmi vous qui ne croyez pas en Dieu, ou qui a entendu l'appel, mais qui n'ont pas encore répondu favorablement à cet appel, si vous êtes parmi nous, sentez-vous concerné par cet appel. Parce que si vous êtes un être humain, La Bible dit de vous que vous êtes pécheurs, comme tout le monde, comme moi. Tous sont péchés, nous dit Romains chapitre 3, 23. Tous sont péchés et tous sont privés de la présence de Dieu. Tous. Pas un seul qui mérite le royaume de Dieu. Et être privé de la présence de Dieu, cela veut dire ne pas faire partie de la fête donnée par le roi en l'honneur de son fils Jésus. Cela veut dire ne pas porter les habits de justice qu'il donne. Cela veut dire rester dans la posture de rébellion à l'égard de Dieu qui propose une autre option que la mort. L'Épître aux Romains, encore, chapitre 6, verset 23, dit ceci, que le péché conduit à la mort. C'est ça le salaire du péché. Le péché conduit à la mort, et pas seulement une mort physique, mais une séparation éternelle d'avec Dieu, avec ce roi qui propose son salut. C'est ça, cette mort dont Jésus parle. L'invitation que Dieu fait, c'est de pouvoir se décharger du poids de nos péchés et d'accepter de revêtir sa justice. Non pas la nôtre, comme j'ai dit tout à l'heure, non pas la nôtre, mais sa justice à lui. Car rien de ce que nous pourrions faire ne peut nous permettre de participer à la fête. La deuxième application est à destination de ceux qui ont déjà revêtu ces vêtements de noces. Nous, croyants, chrétiens, aussi surprenant que ça puisse vous paraître. Moi, je pensais que, voilà, j'ai cet habit, tout roule, ça va. Mais combien d'autres appels le Seigneur nous lance-t-il dans sa parole ? Vous voulez que j'en cite quelques-unes ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais pour autrui ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi. Ne vole pas, ne triche pas, ne mens pas. Fais de l'Éternel tes délices. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il nous appelle à cela. Et il ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Dois-je continuer ? Ce sont des appels qu'il nous lance et auxquels il nous demande de répondre favorablement. Alors, mes frères et sœurs, je nous exhorte à répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Nous qui sommes les élus de Dieu, bien conscients que c'est le travail de toute une vie, nous n'en avons pas fini à répondre à l'appel de Dieu. Notre conversion n'était qu'un début, mais nous appelle à répondre à d'autres appels. Il nous appelle à aller de sanctification en sanctification, à nous émonder jour après jour, à nous défaire de ces chaînes qui nous retiennent, à être plus conformes à l'image de son Fils. Alors que le Seigneur nous aide à y répondre favorablement à ces appels, qui nous donne la force de marcher selon ses exigences et non pas selon les nôtres. Amen. Courbons la tête quelques instants.